Avocat à la barre.
Alors, je procède à la lecture du verdict.
Avec François-David Bernier.
Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
Cube Radio.
On va parler de vaccination parce qu'il y a beaucoup de questions des gens. La campagne se poursuit. On espère qu'elle va s'accélérer parce qu'on se rend compte que la clé de notre liberté devient vraiment le vaccin. Parce qu'on voit ce qui se passe avec la troisième vague. On voit les régions qui sont passées, si on peut dire, au noir. On veut pas que ça perdure, donc il faut vacciner. Par contre, il y a des questionnements, il y a des inquiétudes également. Et on voulait faire la lumière là-dessus avec... Maître Sophie Mongeon, qui connaît très bien ça, surtout le droit du travail, qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va très bien. Surtout qu'on va pouvoir répondre à des questions que beaucoup de gens se posent. On reçoit des questions, d'ailleurs, là-dessus. Bon, Maître Mongeon, comment, là, la vaccination est de bon train? On va y aller avec les employeurs. Les employeurs, exemple, il y a quelqu'un qui me disait, je travaille dans une usine, est-ce que mon employeur peut me forcer à être vacciné pour rentrer au travail?
Bien, l'employeur peut pas vous forcer parce que ça reste quand même quelque chose qui est personnel. Donc, le consentement aux soins, c'est quelque chose qu'une personne, qu'une liberté peut choisir ou non. Toutefois, il peut nous empêcher de rentrer et travailler, par exemple, parce que son obligation première de l'employeur, c'est de s'assurer de la santé et sécurité de l'ensemble des travailleurs. Alors, si le fait que vous refusez la vaccination met en péril les autres employés, il pourrait vous dire gentiment de rester à la maison toutefois.
Et mais si vous dites payer, rester à la maison, payer. Il peut pas arrêter de vous payer ou vous congédier, là. C'est ça la nuance.
Ben moi, je pense qu'il ne peut pas vous congédier, mais il peut vous retourner à la maison sans solde, par exemple.
Même si c'est une usine, puis que c'est pas comme, je comprends, dans un CHSLD où est-ce que la vie est directement de certains patients pourrait être impactée. Vous pensez qu'on pourrait aller jusque-là, même dans un autre genre d'entreprise, là?
Ben, si c'est une usine alimentaire, c'est sûr que oui.
OK.
Moi, je considère que oui. Tout dépend de l'usine, tout dépend des circonstances aussi, tout dépend si la distanciation peut être respectée ou non. Mm-hmm. Mais je pense que c'est discutable, c'est sûr. Tu sais, vous et moi, je peux pas vous dire oui ou non.
Parce que
ça peut être un cas d'espèce.
La chose, c'est que ça n'a pas été débattu encore devant les tribunaux, là, cette histoire-là de nécessité de vaccination. Je pense qu'il y avait déjà eu un cas, une infirmière qui avait été forcée, si elle voulait travailler, d'être vaccinée pour la grippe. Je pense qu'il y a déjà eu un cas. Mais pour ce qui est de la COVID, on est encore un peu dans le néant là-dessus, là.
Ben à date, j'ai pas vu aucune décision à cet effet-là par rapport à un employé qui aurait refusé de se faire vacciner là, mm-hmm. et qui aurait été congédié ou suspendu.
C'est sûr que c'est
au début. Là.
Ben oui, c'est sûr, le vaccin n'est pas encore accessible aux gens de la milieu d'âge moyen. Là. Mais c'est certain, Maître Mongeon, on va voir ça apparaître. Là.
Ah ben c'est sûr, sûr. Puis ça pourra faire l'objet d'une prochaine chronique. Alors, d'après moi, il va y avoir quelques jurisprudences à cet effet-là. Ça va être intéressant de voir comment les tribunaux tranchent.
OK. Donc, c'est pour ça qu'on va spéculer. On va s'amuser aux juges. Donc, pour vous, là, il y aurait l'employeur qui arrive avec une position disant ben si t'es pas vacciné, mes autres employés sont en danger. Ça pourrait tenir la route devant le juge.
Moi, je pense que oui. Surtout en prenant en considération quelle sorte d'entreprise que c'est. Dans le domaine de la santé, ça, c'est clair. Je pense que c'est sans équivoque. Au niveau d'établissement scolaire également, en usine ou en pratique privée, c'est là qu'il va y avoir peut-être un peu plus de gris dans les jugements où les droits personnels vont être confrontés aux droits collectifs là, de l'employeur. Alors ça va être vraiment intéressant.
Ouais, c'est ça. C'est très intéressant parce que lorsqu'on parle de vaccination, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est sérieux quand même, parce qu'on a ça revient comme refuser un soin là.
Oui, puis ça, le droit là de refuser un soin, c'est protégé là avec la Charte québécoise, la Charte des droits et libertés et le Code civil. Donc, une personne ne peut pas être forcée parce que c'est très intrusif. Là, on touche à notre corps. Donc, en principe, l'individu peut refuser tout traitement qui lui convient pas.
Mm-hmm, OK. Est-ce que il y a d'autres litiges ou questions qui vont arriver? Là, on a parlé de l'employeur qui force un employé à être vacciné. Est-ce qu'il y a d'autres circonstances qui pourraient survenir, là, d'autres litiges entre l'employeur et l'employé en lien avec la vaccination qui vous vient à l'esprit?
Ben non, moi ce que je vois, ce qui me vient comme litige potentiel, c'est si l'employeur vous force à être vacciné, puis vous développez des conséquences, ben, à ce moment-là, le litige qui pourrait subvenir, c'est une réclamation à la CNESST. Et l'employeur pourrait dire, écoute, je sais pas pourquoi que moi, je serais obligé de payer de la CNESST alors que l'ensemble du Québec se fait vacciner. Pourquoi je serais responsable de tout ça? Fait que ça pourrait être un litige supplémentaire qui pourrait être dans le cadre d'une relation de travail.
Je comprends. Parce que en matière de vaccination, au Québec, on est un peu comme, comme sur la route là, avec la SAC. Là. Il y a un système de non, on appelait en anglais le no-fault, de non-responsabilité à l'égard de la faute. Ce qui veut dire que quelqu'un qui subirait des conséquences de la vaccination est protégé en quelque sorte par le système, là. Elle ne pourra pas poursuivre là, nécessairement. Là.
Mais on ne peut pas nécessairement poursuivre le gouvernement, mais on pourrait quand même poursuivre éventuellement la compagnie pharmaceutique s'il y avait erreur quelconque, là, comme le Lyrica ou toute autre sorte de médicament qui a eu des litiges.
Ouais.
Mais au niveau là, d'une personne, par exemple, c'est assez simple. Si c'est dans le cadre de votre travail, vous pouvez faire une réclamation à la CNSST. Dans les cas des infirmières, dans le système de la santé, ça c'est clair. Mais pour ceux qui se font pas vraiment forcer et c'est plus volontaire, donc justement l'exemple que vous donniez au départ qui est un peu plus l'usine ou le travailleur ordinaire. Lui, s'il y a des complications, j'ai le goût de vous dire avec fierté qu'au Québec, on a un système d'indemnisation pour les victimes de la vaccination. On est les seuls au Canada à avoir ce programme-là qui est disponible depuis 1985, donc en même temps que la mise en vigueur de la loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles.
OK, je comprends. Et cette vaccination-là aussi, y a-t-il d'autres conséquences là, à la vaccination?
Mais il n'y a pas vraiment. Mais les conséquences là, qu'on voit souvent, par exemple, dans la jurisprudence que j'ai trouvée, c'est des syndromes de Guillain-Barré, des acouphènes ou des petites conséquences qui sont pas vraiment, vraiment grandes. Sauf qu'il arrive à l'occasion où il y a des grosses complications majeures et c'est pour ça qu'il y a eu la loi sur l'indemnisation de la vaccination qui a été intégrée dans la loi sur la santé publique. On sait que la loi sur la santé publique est entrée en vigueur en décembre 2001 et notre système de vaccination en 1985. Donc, c'est à peu près ça qui est disponible pour le citoyen ordinaire. Là.
OK. Et puis, parce que ce système-là, c'est des indemnisations, c'est comme la société, la SAAQ, là. C'est, quand on est indemnisé, ça peut être à vie, là.
Oui, effectivement. Mais je pense que c'est intéressant de revenir sur pourquoi que nous, on a ce programme d'indemnisation au Québec versus le reste du Canada. Parce que dans le monde, il y a 19 pays qui ont des programmes d'indemnisation. Et dans le G7, donc dans les pays industrialisés, il y a juste les États-Unis et le Canada qui n'en a pas, à part nous, les Québécois. Et pourquoi que nous, on a ce système-là? Tout remonte à une histoire de 1979. Il y avait une jeune fille qui s'appelait Nathalie Lapierre qui avait eu une vaccination contre la rougeole puis avait développé une encéphalite virale. Elle avait été grandement handicapée. Et ça s'était retrouvé jusqu'à la Cour suprême. Et la Cour suprême avait dit, écoute, le lien de causalité, il est toujours difficile à faire. Donc, c'est sûr qu'un système d'indemnisation avec le « no fault » serait l'idéal. Et le gouvernement, donc, par la suite, a mis en place ce programme-là.
OK. Donc, parce que c'est... Si, là, on veut pas faire peur aux gens en disant qu'il va y avoir des problèmes, mais advenant, il y a eu des cas extrêmes, et il y a l'indemnisation, on comprend bien, vous l'avez expliqué pourquoi c'est en place, il reste que la loi, contrairement à l'assurance automobile, qui permet pas de poursuivre un constructeur automobile, par exemple, il y a vraiment, c'est très étanche comme responsabilité eux égard à la faute. Par contre, c'est ça, il y a cette ouverture-là de pouvoir poursuivre le fabricant en matière de vaccins, parce que même on a vu cette semaine, imaginez, il y avait des millions de doses qu'on n'avait pas mis les bons ingrédients. Ça fait peur un peu. Heureusement, ça a été repris à temps. Et c'est ce qui est difficile de poursuivre ces compagnies-là, c'est de ce qu'on appelle le lien de causalité, de dire j'ai un vaccin tel jour et des jours après, j'ai un effet secondaire. C'est tout le temps de dire que l'effet secondaire n'est pas arrivé parce que j'avais une condition médicale préexistante, mais parce que j'ai été vacciné. C'est ça qui est difficile à faire comme preuve.
Ben oui, puis devant les tribunaux civils, c'est pour ça que c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus de démarches, beaucoup plus de requêtes. Alors, c'est ça la beauté de nos systèmes d'indemnisation. Donc, si malheureusement, vous avez une complication et on dit « c'est exceptionnel », vous avez 3 ans pour faire une réclamation et vous allez être indemnisé selon la loi sur l'assurance automobile du Québec. Donc, selon les critères, le barème, etc., qui est déjà bien mis en place, là, on le sait. Là.
OK. Bon, mais très éclairant. À venir dans ce domaine-là, on sait que on va s'en reparler parce que oui, il y aura des questionnements lorsque la vaccination sera en cours pour toute la population. Sans parler même de ces fameux passeports vaccinaux, est-ce qu'on va pouvoir interdire quelqu'un d'aller à telle place, tel endroit parce qu'il n'est pas vacciné? On verra tout ça. Merci beaucoup, Sophie Mongeon. Très éclairant.
Bien, merci beaucoup. Bonne semaine.
Bonne journée. Bye-bye.